Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. Vous connaissez sans doute le concept journalistique du marronnier, ces sujets qui immanquablement reviennent tous les ans à la même période alimenter nos journaux, nos radios, nos télés. C'est un classique inusable de ce beau métier et parmi les thèmes qui, comme par magie, refleurissent à chaque début d'année, il y a l'incontournable chiffre de la délinquance. Impossible d'y couper, on nous sortira inévitablement ces statistiques censées refléter l'état de la sécurité du pays. Des chiffres sur lesquels le corps politique s'écharpera à coup sûr à grands coups d'accusations de mensonges, de dissimulation ou de manipulation. Une chose est certaine, ce concept d'une délinquance qu'on pourrait chiffrer, mesurer, analyser au pourcentage près, il est devenu tellement familier qu'on prend rarement le temps de l'interroger. C'est quoi au juste la délinquance? Est-ce qu'on est réellement capable de la quantifier? Est-ce qu'on n'a pas un peu trop tendance à la confondre ou à la mélanger avec le sentiment d'insécurité, un autre grand classique du discours public? Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B. Notre invité, c'est Laurent Mucchielli. Il est sociologue, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire méditerranéen de sociologie, spécialiste des questions de sécurité. J'ai commencé très simplement par lui demander, c'est quoi la délinquance ?
Alors la délinquance, contrairement à ce qu'on entend souvent dans le débat public, ça n'est ni un type d'acte précis et surtout pas une catégorie de personnes, et encore moins si on en croit les discours racistes, un type de personne, voire une couleur de peau. Voilà, il y a beaucoup trop d'images qui tournent comme ça dans le débat public, c'est tout à fait catastrophique. Et malheureusement, ça influence les inconscients de tout le monde, y compris des gens qui ne sont pas spécialement prédisposés au racisme ou à la discrimination. Donc pour dire les choses, la délinquance, ce n'est pas des voitures qui brûlent ou je ne sais quoi. La délinquance, c'est la seule définition qui existe, c'est celle que donne le droit. La délinquance, c'est le fait d'enfreindre la loi de façon consciente, évidemment. Ça existe dans absolument tous les domaines de la société, dans tous les milieux sociaux et dans tous les milieux professionnels. Et alors simplement, il y a des choses qui sont visibles, il y en a d'autres qui le sont moins. Hein. Mais la délinquance, ça va du plus bas de l'échelle sociale jusqu'au plus haut, jusqu'au sommet de l'État aussi.
Qu'est-ce qui fait que le terme de délinquance, il a évolué dans la perception, dans la manière qu'on a de le présenter, notamment quand on parle des fameux chiffres de la délinquance ?
Alors le problème, c'est qu'on n'est pas capable en France de chiffrer la totalité des infractions, puisqu'encore une fois, la définition étant juridique, la délinquance, c'est le fait d'enfreindre la loi. Y en a certaines qu'on peut mesurer relativement bien, et d'autres mal, et d'autres encore pas du tout. Voilà. Donc je vais vous donner des exemples concrets. Y a fondamentalement deux sources qui permettent d'essayer de quantifier, donc de produire des statistiques sur des actes délinquants. Il y en a une qui est la plus connue du débat public classique, qui sont les statistiques de la police et de la gendarmerie, mais qui en fait sont très, très parcellaires, ça n'est qu'une petite partie de la délinquance, parce que tout n'y est pas, parce que ça dépend des politiques de sécurité du moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont connues mais qui ne sont pas comptabilisées dans cette série statistique-là. Enfin voilà, on n'a pas le temps, je suppose, de rentrer dans la cuisine statistique, mais ça n'est qu'une vision très, très parcellaire. Par ailleurs, ça dépend fondamentalement de ce que les victimes amènent aux policiers et aux gendarmes, des plaintes d'un côté, et de ce que les policiers ou les gendarmes trouvent par eux-mêmes, à l'occasion notamment des contrôles sur la voie publique. Donc ça dépend aussi évidemment des cibles prioritaires de leur action. Bon. Donc d'un côté on a ça, un outil qui rend compte au fond de une partie de ce qui est traité par les policiers et les gendarmes, et de l'autre côté on a ce que nous faisons, nous chercheurs, lorsqu'on fait des enquêtes, ce qu'on appelle des enquêtes en population générale, c'est-à-dire en fait des sondages élargis, si on veut, hein, et dans lesquels on nous interroge, vous et moi, nous citoyens, directement sans qu'il y ait ce filtre institutionnel. Concrètement, que ce soit par téléphone ou par Internet, on demande directement aux citoyens, madame, monsieur, est-ce que vous avez été victime de ceci ou cela ? Par contre, quand on fait ça, là aussi, c'est parcellaire. Donc l'intérêt, on le voit bien, c'est de ne pas avoir ce filtre institutionnel, de demander directement aux gens ce qui leur est réellement arrivé. La limite de cette enquête, c'est qu'on peut évidemment les interroger que sur des choses qui les ont touchés directement, individuellement et de façon consciente. Donc on peut évidemment leur demander s'ils ont été victimes d'une agression physique, verbale ou sexuelle, s'ils ont été victimes d'un vol, d'un cambriolage, d'une dégradation de leur voiture ou de leur domicile, des choses comme ça. Mais par contre, on ne va pas leur demander s'ils pensent être collectivement victimes de l'évasion fiscale qui ruine les finances de l'État, donc les politiques publiques, donc les services publics, et c'est ce qui fait à l'arrivée qu'ils attendent 3 heures dans les couloirs des urgences avant d'être soignés. Voilà. Or, évidemment, il y a là de la délinquance et qui impacte très fortement leur vie. Mais ça, on ne peut pas le demander dans ce type d'enquête. Donc, on a des outils, hein, encore une fois, qui existent, qui sont limités, des choses qu'on ne mesure pas du tout. On ne mesure, et ce qu'on mesure évidemment le moins bien, c'est ce qui concerne le haut de l'échelle sociale. C'est la délinquance des élites, ce qu'on appelle la délinquance en col blanc, depuis un célèbre sociologue américain des années 30, Edwin Sutherland. C'était le col blanc des cadres par opposition au bleu de travail des ouvriers. C'est de là que vient l'expression. Donc voilà, on mesure évidemment beaucoup plus les voitures brûlées dans les quartiers pauvres que l'évasion fiscale, la corruption et l'abus de biens sociaux dans les élites de la société.
Vous parliez de la cuisine statistique. Comment est-ce qu'elle est décider justement ces distinctions qui sont faites entre les différents types de délits et comment est-ce qu'on fait le tri entre ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas et de ce qu'on donne à voir du coup au public quand on communique derrière sur les fameux chiffres de la délinquance.
Alors il y a deux choses différentes. Il y a ce qui sont les stratégies de communication des gens qui utilisent ces statistiques, que ce soit l'État, le ministère de l'Intérieur, ses relais préfectoraux dans les départements, les forces de police ou de gendarmerie à l'échelle locale, et par ailleurs les médias. Et puis il y a ce qu'on peut en faire d'un point de vue de recherche, qui est évidemment tout à fait différent. Donc l'utilisation dans le débat public, en général, c'est malheureusement la communication politique, c'est le rituel de chaque début d'année, hein, on y a encore assisté, qui consiste à, au ministère de l'Intérieur, puis encore une fois décliné après à tous les échelons locaux, qui consiste à rendre public ce qui est à tort appelé les chiffres de la délinquance de l'année précédente. Donc là, début 2020, communication sur les chiffres de l'année 2019, qu'on va comparer ensuite à la précédente, 2018, et c'est ce qui va donner tous ces articles de journaux qu'on peut lire à cette époque-là de l'année, avec des titres du genre « La délinquance a augmenté de 1,02 ou a baissé de 0,93%. » C'est-à-dire des choses qui ont l'air en plus extrêmement précises, hein, deux chiffres après la virgule. Alors voilà, donc la bonne question qu'on devrait se poser, que le citoyen devrait se poser quand il voit ça, c'est de se dire wow, « Waouh, on est quand même super fort en France, on arriverait donc à chiffrer quelque chose qui s'appellerait la délinquance deux chiffres après la virgule. » Voilà, si on était sérieux, on devrait en fait s'arrêter deux secondes, se dire est-ce que c'est vraiment possible ça ? Est-ce que ça paraît vraiment crédible, sérieux ? Voilà. Alors, ça, non, évidemment, on ne chiffre pas un truc qui s'appellerait la délinquance dans un pays de 67 millions d'habitants comme la France, avec une précision diabolique de deux chiffres après la virgule, hein, ni ma main, bon, voilà. Et pourtant, c'est pas non plus un chiffre qui sort comme ça d'un chapeau. Il n'y a pas un chargé de communication au ministère de l'Intérieur qui a dit « Tiens, on va dire 0,93 cette année, ça sonne bien. Hein » Non, bien sûr. Là, ça résulte d'un calcul précis. Mais la règle générale, qui est une règle scientifique de base, c'est on ne peut rien dire d'un chiffre si on ne sait pas comment il a été produit. Donc la question fondamentale, c'est de savoir comment on produit ce chiffre, hein, de sortir de l'espèce de naïveté générale du débat public qui consiste à penser que, paf, on saurait par quelle magie, on ne sait pas, hein, on pourrait chiffrer un phénomène social comme ça. Bon. Donc non, bien sûr. Et si c'est précis, c'est pour une raison très particulière. Les policiers et les gendarmes ne sont pas des gens qui font un espèce de recensement général des actes de délinquance en faisant la totalité des dizaines de millions de domiciles des Français en tapant à la porte en disant « bonjour, je fais une enquête ». Non, évidemment que non. Voilà. Donc s'ils sont précis, c'est parce qu'on ne compte pas toute la réalité, mais on compte un petit morceau procéduralisé de la réalité. Fondamentalement, pour simplifier, on compte un procès-verbal. Donc si une année, il y a eu 4 535 924 procès-verbaux, alors que l'année d'avant, il y en avait eu 4 934 812, par exemple, on fait une règle de 3 et on pourrait même mettre 10 chiffres après la virgule si on voulait, en disant ça a augmenté de 0,2, 4, 6, 8, 9, 1, etc. Voilà. C'est parce que fondamentalement, on a compté un papier, on a compté une procédure administrative. Alors évidemment que cette procédure administrative a une relation avec la réalité, elle rend compte d'un élément de la réalité, mais absolument pas de la totalité de la réalité, ni même nécessairement de quelque chose qui est représentatif de toute la réalité. Donc voilà à la fois pourquoi ça a l'air si précis, lors même qu'en fait, ça ne donne qu'une vision partielle, voire partiale, de la réalité. Alors c'est pour ça qu'on essaye de le compléter avec les enquêtes en population générale, qu'on fait de la recherche, encore une fois, pour aller voir directement le citoyen sans ce filtre institutionnel, mais avec les limites que je vous ai dit. On ne peut pas le faire sur tout, et il y a par ailleurs une deuxième grosse limite, qui est commune d'ailleurs à toutes les enquêtes et à tous les sondages, et que malheureusement, personne là non plus ne dit jamais, alors qu'encore une fois, la cuisine est fondamentale pour comprendre ce qu'on mange après. Hein. On peut vous amener un très beau plat dans l'assiette au resto, et il peut avoir été fabriqué avec des produits absolument dégoûtants et dans des cuisines qui sont hors normes, évidemment. Bon. Donc il ne faut pas se fier simplement à ce qu'on a sous les yeux. Toutes les enquêtes, comme tous les sondages, que ce soit par téléphone ou par Internet, interrogent par définition des gens qui sont bien insérés dans la société, qui ont juste précisément un téléphone, une adresse internet, qui sont dans des fichiers, qui sont dans des annuaires, etc. Les enquêtes, comme les sondages en général, passent systématiquement à côté en fait, des populations qui sont plus ou moins marginalisées socialement. Voilà. Or, sur les questions qui vous intéressent ici, les questions de délinquance, ce sont des populations qui sont particulièrement exposées, que ce soit comme auteur ou comme victime. Hein. Concrètement, les enquêtes, on ne les fait jamais dans les prisons, on ne les fait jamais dans les hôpitaux psychiatriques, on ne les fait jamais dans les foyers pour enfants, on ne les fait pas auprès des sans-abri dans la rue. Or, il ne vous aura pas échappé que vous avez beaucoup plus de chances de vous faire agresser ou dépouiller, voler, si vous dormez dans la rue sous les ponts parce que vous êtes sans-abri, que si vous rentrez tranquille dans votre pavillon ou votre appartement le soir. Donc, voilà, c'est pour expliquer que chaque mode d'enquête a ses limites. Il faut, pour essayer de cerner le moins mal possible la réalité, il faut utiliser le plus d'outils, être bien conscient et bien dire et reconnaître leurs limites, et en les croisant les uns les autres, eh ben on arrive à faire des approximations. Voilà. La démarche scientifique, c'est celle-là, c'est sortir de la naïveté devant la prétendue magie des chiffres, hein, et arrêter de croire comme ça qu'on peut chiffrer n'importe quoi si facilement, et essayer simplement d'approcher le plus possible la réalité en croisant des méthodes et en travaillant et en réfléchissant beaucoup.
Depuis quand est-ce qu'on utilise, est-ce qu'on a recours dans le discours public et dans les médias notamment, à cet indicateur que serait le chiffre de l'indélinquance, les chiffres de l'indélinquance? Depuis quand est-ce que ça existe dans le débat public? Est-ce que c'est très ancien? Est-ce que c'est récent?
Alors, la première statistique, la plus ancienne, c'est la statistique de justice, en fait, qui remonte en fait à la fin des années 1820. Vous voyez, c'est très vieux, ça a 200 ans. C'est ce qu'on appelait à l'époque le compte général de l'administration de la justice criminelle. Donc concrètement, c'est la justice, les tribunaux, qui comptaient le nombre de personnes qui étaient accusées et condamnées pour tel ou tel délit. C'est ce qui a existé de manière unique pendant très longtemps, et c'est logique, puisque par ailleurs, jusqu'aux années 60, il n'y avait pas d'unification. Les forces de police, de gendarmerie, les polices municipales étaient extrêmement diverses. Et c'était impossible de centraliser, de réunir tout ça, d'harmoniser tout ça. Voilà. Alors la situation a évolué pour deux raisons. La première, c'est que l'outil technique, chiffres de la police et de la gendarmerie unifiés et rassemblés ensemble, ont été disponibles après la Deuxième Guerre mondiale et rendus publics à partir du début des années 1970. Et par ailleurs, les années 70, ça correspond aussi à une évolution du débat public. C'est le moment, en gros, où, du côté droit de l'échiquier politique, on s'est emparé fondamentalement des questions de sécurité, comme par ailleurs des questions d'immigration, pour faire de la politique. Et on a remis au centre du débat public ces questions-là. Ce qui n'était pas le cas dans les années 50 ou 60, même s'il y avait eu, il y a toujours eu quelques épisodes d'alerte sur les jeunes, les bandes de jeunes, ça c'est un grand, grand classique, hein, les blousons noirs au début des années 60, voilà. Mais il n'y avait pas véritablement cette omniprésence du débat public sur les questions de sécurité, comme par ailleurs d'immigration, il n'y avait pas ça dans les années 50 ou 60. Donc ça date vraiment, c'est une évolution du milieu des années 70, hein, et qui n'a plus quitté le débat public depuis cette époque-là.
Ce qui m'interroge, moi, c'est dans quelle mesure cet indicateur, on l'a dit, approximatif de la délinquance, c'est à mettre en regard avec un autre indicateur qu'on nous ressort souvent, surtout en période électorale, qui est celui de l'insécurité, du sentiment d'insécurité. Même si ça paraît toujours très étrange de se dire qu'on puisse mesurer un sentiment, mais j'ai l'impression que l'un ne va plus sans l'autre.
Alors, dans le débat public, il y a, parmi les erreurs majeures qui sont faites régulièrement, volontairement ou involontairement, il y a celle qui consiste effectivement à confondre sécurité et sentiment d'insécurité, ou alors à les assimiler, c'est-à-dire à dire au fond que c'est les deux revers de la même médaille. Il y aurait d'une part des phénomènes d'insécurité réelle, d'autre part un sentiment d'insécurité, et l'une expliquerait l'autre. Bon, voilà. Donc ça, c'est une autre de ces naïvetés qui traversent le débat public. Nous faisons des enquêtes, comme celle que j'évoquais tout à l'heure, l'enquête de victimation. En fait, nos enquêtes s'appellent « Enquête sur la victimation et le sentiment d'insécurité ». C'est-à-dire que dans une même enquête, nous posons aux gens à la fois des questions sur ce qui leur est réellement arrivé et par ailleurs des questions sur leur représentation, leur peur, etc. Donc leur sentiment d'insécurité. Ce sont les mêmes personnes dans la même enquête, ce qui permet de tester cette hypothèse que ce seraient les deux revers d'une seule et même médaille. Voilà. Et la réponse est que c'est faux. La réponse est que c'est faux, c'est-à-dire que ce qui nous est, je dis nous personnes qui répondons, nous citoyens, ce qui nous est réellement arrivé dans la vie n'est pas l'explication première de par ailleurs le fait que nous ayons ou pas des peurs. Voilà. Je vous donne quelques exemples très concrets pour expliquer ça et que tout le monde comprendra bien. Quand on regarde en termes d'âge, les personnes qui sont le plus exposées au risque d'être agressées ou volées, etc., sont les jeunes. Parce qu'ils sortent beaucoup plus le soir, dans des endroits où on est alcoolisé, dans des phénomènes de foule, etc., où il y a beaucoup plus de risques d'agression et de vol. Inversement, les personnes âgées qui passent toute leur soirée enfermées chez elles devant la télévision, et qui sortent juste le matin faire quelques courses, sont celles qui sont le moins victimes. Bon. Et pourtant, ce sont celles qui ont le plus peur. Alors que les jeunes, qui sont beaucoup plus exposés, ce sont ceux qui ont le moins peur. Voilà. Donc ça montre bien qu'encore une fois, ce ne sont pas les deux revers d'une seule et même médaille, ce sont deux phénomènes qui coexistent, il y a des phénomènes d'insécurité réelle, et il y a par ailleurs des peurs, et ce sont chacun a ses logiques propres. Voilà. Il y a donc des logiques propres à la peur, et qui sont en réalité, quand on regarde, donc je viens de citer l'âge, c'en est une, bien sûr, plus on vieillit, plus on a peur, statistiquement, c'est pas le cas pour chaque personne, mais en moyenne statistique. De même que l'isolement, plus on est seul, plus on a peur. Bon. Mais ce sont des grosses banalités si on y réfléchit bien, mais qui sont tout à fait fondamentales. Mais et ça permet surtout de comprendre, c'est ça qui est l'essentiel, que ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité, en réalité, c'est un sentiment de fragilité, de vulnérabilité. Voilà. Si on est plus vieux, on a peur parce qu'on se sent en fait moins fort pour résister à, même s'il vous est rien arrivé du tout. De la même manière, le fait d'être seul, c'est un des fondements de la peur. Je vais rappeler là aussi une grosse banalité, mais qui est tout à fait fondamentale. Chacun peut faire l'expérience suivante. Vous partez ce soir faire un petit tour dans la forêt, okay, et vous y allez tout seul la nuit. Bon, les phénomènes de peur vont être maximales. Vous allez voir les bruits qui vous alertent, les poils qui se hérissent, l'oreille attentive. Voilà. Vous refaites la même chose demain et vous y allez avec 5 ou 6 amis. Vous n'aurez pas du tout les mêmes peurs et les mêmes sensations. C'est la même forêt. La seule différence, c'est que dans un cas, vous êtes seul, dans l'autre, vous êtes plusieurs, et ça change totalement votre perception. Voilà. Donc ça, c'est très important à comprendre. Ce sont deux choses différentes. Alors bien sûr, si vous avez une partie des personnes qui ont été réellement victimes d'un vol, d'un cambriolage, d'une agression, peuvent d'autant plus en retirer de la peur par la suite. Mais ça n'est absolument pas l'explication principale, d'autant que, évidemment, j'aurais peut-être dû commencer par là, la plupart des citoyens que nous interrogeons ne déclarent pas avoir été victimes de quoi que ce soit. Il ne faut pas non plus fantasmer l'idée que tout le monde est menacé en permanence à tous les coins de rue, c'est juste faux, ça. Enfin, c'est une rhétorique politique utilisée par certains pour faire de la politique politicienne, mais c'est juste faux dans la réalité, évidemment.
Si on en revient au thème principal de notre discussion, est-ce que finalement, ne serait-ce que ce simple terme de délinquance, par son imprécision, il ne brouille pas plus qu'autre chose le débat public ?
Vous avez totalement raison. Et ça fait très très longtemps que mes collègues et moi avons écrit ça. Je le disais déjà au tout début de ma carrière, on est en 2020, je suis entré au CNRS en 1997, donc il y a 23 ans. Et déjà, avec mes collègues de l'époque plus âgés, dont j'ai appris la plupart des choses que je sais, déjà on disait, mais c'est une catastrophe cette espèce, cette idée consistant à penser qu'il y aurait un truc qui s'appelle la délinquance, et qu'on va en plus le mesurer, c'est une blague. J'en donne tout de suite quelques exemples très concrets. Donc on l'a dit, la seule définition de la délinquance, c'est la définition, c'est le droit, hein, c'est la définition juridique, c'est l'ensemble des atteintes au droit, dans tous les domaines, dans tous les domaines. Je veux dire, si vous ne respectez pas la loi sur la pêche, la loi sur les émissions de matières polluantes, etc., c'est de la délinquance. Hein, voilà. Donc l'idée qu'on va... On va connaître tout ça, le mettre dans un même mot, c'est une plaisanterie. Vous allez mettre, par exemple, je prends un exemple tout simple. Dans la statistique de police et de gendarmerie, il y a une infraction qui s'appelle le défaut de permis de chasse ou de pêche. Ok, normal, c'est une infraction administrative. Dans la même statistique, il y a une autre ligne, si on veut, de la même statistique, il y en a même plusieurs qui concernent les meurtres, les homicides. Alors vous allez dire, un défaut de permis de pêche et un meurtre, c'est deux faits de délinquance, 1 plus 1 égale 2. Ça pose tout de suite un problème. Donc vous allez mettre sur le même pied et traiter de la même manière et compter de la même manière les choses les plus graves et les choses les moins graves. Voilà. Donc, tout ça n'est pas sérieux du tout. Parler de la délinquance et prétendre en plus chiffrer son évolution, c'est une ânerie. C'est fondamentalement une ânerie. Il faudrait effectivement se débarrasser de ce mot-là et ne parler que de choses très précises. Les cambriolages de résidence principale, ça c'est précis. Les vols de voitures, ça c'est précis.
L'époque est-elle propice à la précision? Ça, c'est un autre débat, ça fait très question du bac de philo d'ailleurs, mais c'est une vraie interrogation. On a qu'à la garder, tiens, pour un prochain épisode. Merci à Laurent Mucchielli pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.